Bonjour, aujourd'hui je vais te présenter un nouveau livre qui est, je pense, mieux de Christelle Petit-Collin. Je t'ai déjà fait un résumé du livre Je pense trop et du livre Trop intelligent pour être heureux de Jeanne-Sio Fachin. Donc tout ça, c'est des livres de la thématique zèbre, hypersensible, suréfficient mentaux, surdoué, douance, multipotentiel, etc., etc. Donc comme tu sais, c'est une thématique qui m'intéresse particulièrement et au mois de janvier, tous les jours en fait, je vais publier un épisode sur cette thématique-là. Mais donc là, comme j'ai terminé de lire ce livre, je vais te partager un petit peu l'essentiel de son enseignement. Alors moi, ce que j'ai apprécié, j'aime beaucoup la façon dont écrit Christelle Petit-Collin. Je trouve que c'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup moins froid que l'écriture de Jeanne-Sio Fachin, qui a plus une démarche de psychologue qui fait le bilan et constatation de tous les problèmes que rencontrent les surdoués et qui lui raconte en fait dans son cabinet. Christelle Petit-Collin est également accompagnatrice. Alors elle, sa spécificité, c'est plutôt d'accompagner les personnes, notamment victimes de manipulation ou de pervers narcissiques. Et il se trouve du coup que dans sa clientèle, il y a quand même pas mal de zèbres. Et donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, elle a fini par écrire un livre sur les suréfficients mentaux. Pour les aider déjà à comprendre leur fonctionnement et puis ensuite à comprendre pourquoi certaines personnes ne sont pas 100% pleine de bonnes intentions en fait. Elle est assez crue dans sa façon de présenter les choses, mais je pense que c'est nécessaire pour les zèbres d'entendre ça. C'est que tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas des bisounours comme les zèbres. Il y a certaines personnes qui ont des mauvaises intentions. Elle explique des choses très basiques qui peuvent sembler très bêtes, mais qui sont nécessaires à entendre, comme l'amour ne fait pas souffrir, pratiquer l'échange égalitaire. Ça veut dire aussi ne pas donner plus que ce qu'on reçoit. Voilà, donc c'est plein de petites choses en fait qui sont là pour venir nous aider à quelque part allumer la sonnette d'alarme quand on est dans des situations comme des relations toxiques ou non bénéfiques pour notre santé. Elle a évolué aussi dans son point de vue par rapport au premier livre, Je pense trop. Dans le sens où elle, par exemple, sur le point de vue des relations entre zèbres, dont je pense trop, elle explique que, à son avis, fréquenter d'autres personnes qui fonctionnent comme nous, c'est une bonne solution. Alors que dans Je pense mieux, elle revient un petit peu sur cet effet-là et elle explique le bénéfice des relations, des conversations, des échanges sociaux avec des personnes qui ne seraient pas seulement profonds, philosophiques, métatranscendantales, etc. Dans le sens où ça peut faire du bien aussi à un zèbre que d'apprendre à tisser ce type de relations qui sont un peu moins profondes pour lui, mais qui permettent d'avoir finalement des relations sociales sécurisantes. Donc je trouve ça assez intéressant. Toujours son point fort dans ses bouquins, c'est quand même d'expliquer comment fonctionnent les normopensants. Par exemple, ici, elle dit « Les normopensants évitent délibérément les sujets qui plombent ou qui fâchent. Et d'ailleurs, ils se fâchent vite quand vous les abordez. » Du coup, c'est quand même sympa de donner des modes d'emploi. On peut se fréquenter sans se psychanalyser ni engager un débat profond à chaque discussion. Donc ça, c'est une information qui est relativement nouvelle pour un zèbre. Hein, le zèbre va avoir cette tendance naturelle à peut-être psychanalyser tous ses amis, à analyser tout ce qu'il voit, tout ce qui se passe autour de lui, à avoir envie d'avoir des gros débats philosophiques, métaphysiques avec les moindres personnes qu'il rencontre. Et en fait, c'est peut-être pas nécessairement bon pour sa vie sociale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Votre seconde erreur est de faire toujours plus de ce que vous faites déjà trop. Donc, c'est vrai qu'il y a cette tendance du zèbre à en faire beaucoup Du coup, quand on en fait trop, bah, ça pénalise les autres et puis ça va nous exclure parce que on va nous voir comme un potentiel danger, notamment dans des organisations comme les entreprises. Voilà, en fait, ça fait quand même un petit rappel, lequel je conseillerais peut-être, je pense, mieux s'il fallait vraiment lire qu'un seul. Si c'est quelqu'un qui est en train de découvrir son fonctionnement, si tu es en train de te découvrir zèbre et que tu découvres ton fonctionnement neuro-atypique, je te conseille quand même de lire les deux dans le sens où une petite couche de rappel de temps en temps, ça fait pas de mal non plus. Du coup, c'est quand même des livres faciles à lire et qui, en fonction des situations que tu vas vivre au quotidien, ça fait toujours du bien en fait de comprendre un peu. D'avoir un regard extérieur, une espèce de mode d'emploi quand on est dans notre petit brouillard de difficultés quotidiennes. Voilà. Moi, c'est pour ça, en première raison, que je vais conseiller ce livre. J'aime bien aussi parce qu'il parle de la place des zèbres dans le monde 2.0, de la place des zèbres dans l'organisation, de la mission de vie. Alors, elle évoque aussi la question de réminiscence de mémoire. Donc, il y a cette question du jumeau perdu qui revient. Ça a été évoqué rapidement dans le premier livre, mais elle en reparle dans tout un chapitre dans le deuxième, je pense mieux. L'histoire du jumeau perdu, c'est que beaucoup de zèbres ont le sentiment d'avoir perdu un jumeau et du coup, que ce soit conscient ou inconsciemment, en fait. Elle explique qu'en plus, statistiquement, il se trouve qu'il y aurait à peu près 15% de grossesses gémellaires et qu'il n'y aurait que 2% qui arriveraient à un accouchement de deux jumeaux. Donc, ça veut dire qu'on a environ 10% de grossesses gémellaires dans lesquelles il n'y a que un bébé qui arrive au bout. Du coup, ça fait beaucoup de jumeaux qui naissent tout seuls. Et il se trouve que ça fait un pourcentage assez proche de ce que elle parle comme étant les surefficients mentaux. C'est-à-dire que les pourcentages qu'elle utilise sont un peu supérieurs à ceux utilisés par Jeanne Siofacha. Bon, on va pas s'embrouiller avec les chiffres. Dans les grossesses gémellaires, du coup, l'impact que ça peut provoquer sur une naissance d'un jumeau seul, donc avec un jumeau perdu, c'est que en fait, ce jumeau va chercher en permanence des relations gémellaires avec les personnes autour de lui. Du coup, il va chercher une grande intensité, une possibilité de communiquer par télépathie. En fait, c'est ce genre de choses étranges qu'on observe chez les jumeaux. Et là, ce jumeau, bah, il va chercher ça chez d'autres personnes. Et de l'extérieur, ça peut ressembler à une dépendance affective. Dans le sens où on va demander beaucoup, beaucoup d'attention aux personnes de l'entourage et ça peut ne pas être compris parce que si tu demandes à une personne qui n'est pas née comme étant un jumeau d'avoir une relation gémellaire, ben, du coup, ça peut devenir un petit peu envahissant. Donc ça, je trouvais ça intéressant et en fait, ce qu'elle explique, c'est que il est possible que la surefficience mentale vienne du fait que, ayant grandi dans un environnement ou étant arrivé sur Terre dans un environnement assez hostile, comme par exemple une grossesse dans laquelle on perd un des deux bébés, ben le bébé va devoir surdévelopper une espèce de vigilance pour pouvoir survivre en fait dans ce monde hostile dans lequel il est en train d'arriver. Et du coup, c'est ça qui provoquerait la surefficience mentale. C'est comme si tous ses sens étaient en éveil, quoi. Donc ça, c'est une hypothèse possible. Je crois qu'à un moment donné, elle parle aussi d'hypothèse de réminiscence de vie passée. Je crois qu'elle s'est pas trop étendue sur le sujet. Elle explique aussi que la spiritualité, c'est un sujet hyper important pour les zèbres. Et qu'ils sont nombreux à chercher du répondant sur le sujet auprès des professionnels dans la psychologie. Et du coup, c'est vrai que bah, les psychologues, c'est pas trop leur sujet, la spiritualité, quoi. Donc, Les psychologues ont beau être les spécialistes de la douance, du coup, ils savent pas trop quoi répondre au niveau de toutes les expériences extrasensorielles et paranormales que peuvent vivre les zèbres. Finalement, il y avait un autre sujet que je voulais aborder. C'était celui, ah oui, des différents niveaux d'évolution. Alors, elle parle à un moment de 6 niveaux de conscience. Et donc, elle expliquerait que les pervers narcissiques, par exemple, seraient au niveau 1, qui est un niveau assez lié à l'enfance, dans lequel je fais des bêtises jusqu'à ce qu'on me punisse, quelque part. Et elle associerait les survivants mentaux au niveau de conscience 6. Alors, c'est un peu. C'est très résumé. Là, il faudrait retourner voir le chapitre. Mais je trouvais ça assez intéressant, la façon dont elle le décrivait. C'est documenté, bien sûr, il y a toute une bibliographie qui va avec. Ça permet de comprendre, en fait, le décalage de maturité entre un surefficient et une personne un petit peu mesquine. Moi, je dis mesquin parce que j'ai encore du mal à appeler les pervers narcissiques des grands méchants, mais elle est vraiment pas délicate avec eux et elle les. Voilà, elle leur donne pour leur compte, quoi. Hein. parce qu'elle en a un petit peu marre, en fait, d'en croiser à travers toutes les consultations qu'elle fait professionnellement. Voilà, il y avait un autre chapitre aussi sur l'autisme, notamment Asperger. Très touchant comme chapitre, très troublant aussi du coup de voir le nombre de zèbres qui se retrouvent dans certains passages de la description de alors, ce trouble, bon, de cette atypicité neurologique on peut dire. Parce que est-ce que c'est un handicap d'être autiste Asperger? C'est un handicap dans une société où tout le monde n'est pas comme ça, mais bon. Si tout le monde était autiste Asperger, peut-être que ce serait pas un handicap. Le danger de ce chapitre, c'est que tout le monde dise bah, tout le monde est un petit peu autiste. Du coup, bah, ça handicape encore plus les personnes qui sont concernées. Le gros avantage de ce chapitre, c'est de nous permettre de beaucoup mieux comprendre en fait ce qui se cache derrière, les tenants, les aboutissants, quelles sont les difficultés des autistes, quels sont leurs talents. Alors elle parle notamment à un moment donné de l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle, je crois. L'empathie cognitive, c'est celle où on va réussir à comprendre mentalement les émotions de l'autre. Et ça, c'est là que l'autiste Asperger va avoir des difficultés. Alors que l'empathie émotive, c'est celle où on va ressentir les mêmes émotions que l'autre. Et c'est là que les personnes dont je ne me rappelle plus le nom ont des difficultés. Voilà, donc il existe plusieurs types d'empathie. En fait, ça permet aussi un petit peu de se positionner. Parce que c'est vrai que derrière ce mot empathie, on met un peu de tout. Comme derrière le mot sensibilité, on met un peu de tout. Donc ça permet de faire le tri. Voilà, donc bah, encore une fois, je te recommande vraiment ce livre. Surtout si tu te reconnais derrière le mot hypersensible, je pense que c'est un livre qui peut être vraiment intéressant et encore plus si tu as été ou tu es régulièrement victime de personnes manipulatrices. Du coup, l'auteur à te recommander absolument, c'est Christelle Petit-Collin, soit avec son premier livre, Je pense trop, soit avec son deuxième livre, Je pense mieux. Mais elle a écrit plein d'autres livres aussi sur la manipulation, que je n'ai pas encore lu. Mais si tu veux m'en conseiller, hein, c'est avec plaisir. Je te retrouve demain pour découvrir ensemble un prochain livre. À très vite. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, s'il te plaît, rajoute un petit pouce en l'air, ça m'aidera à mieux référencer le podcast et à le faire connaître à un maximum de personnes. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À demain pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Bonjour, aujourd'hui je vais te présenter un nouveau livre qui est, je pense, mieux de Christelle Petit-Collin. Je t'ai déjà fait un résumé du livre Je pense trop. et du livre Trop intelligent pour être heureux de Jeanne-Sio Fachin. Donc tout ça, c'est des livres de la thématique zèbre, hypersensible, suréfficient mentaux, surdoué, douance, multipotentiel, etc., etc. Donc comme tu sais, c'est une thématique qui m'intéresse particulièrement, et au mois de janvier, tous les jours en fait, je vais publier un épisode sur cette thématique-là. Mais donc là, comme j'ai terminé de lire ce livre, je vais te partager un petit peu l'essentiel de son enseignement. Alors moi, ce que j'ai apprécié, j'aime beaucoup la façon dont écrit Christelle Petit-Collin. Je trouve que c'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup moins froid que l'écriture de Jeanne-Sio Fachin, qui a plus une démarche de psychologue qui fait le bilan et constatation de tous les problèmes que rencontrent les surdoués et qui lui raconte en fait dans son cabinet. Christelle Petit-Collin est également accompagnatrice. Alors elle, sa spécificité, c'est plutôt d'accompagner les personnes, notamment victimes de manipulation ou de pervers narcissiques. Et il se trouve du coup que dans sa clientèle, il y a quand même pas mal de zèbres. Et donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, elle a fini par écrire un livre sur les suréfficients mentaux, pour les aider déjà à comprendre leur fonctionnement et puis ensuite à comprendre pourquoi certaines personnes ne sont pas 100% pleines de bonnes intentions. En fait, elle est assez crue dans sa façon de présenter les choses, mais je pense que c'est nécessaire pour les zèbres d'entendre ça. C'est que tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas des bisounours comme les zèbres. Il y a certaines personnes qui ont des mauvaises intentions. Elle explique des choses très basiques qui peuvent sembler très bêtes, mais qui sont nécessaires à entendre, comme l'amour ne fait pas souffrir, pratiquer l'échange égalitaire, ça veut dire aussi ne pas donner plus que ce qu'on reçoit. Voilà, donc c'est plein de petites choses en fait qui sont là pour venir nous aider à quelque part allumer la sonnette d'alarme quand on est dans des situations comme des relations toxiques ou non bénéfiques pour notre santé. Elle a évolué aussi dans son point de vue par rapport au premier livre, Je pense trop, dans le sens où elle, par exemple, sur le point de vue des relations entre zèbres, dans Je pense trop, elle explique que, à son avis, fréquenter d'autres personnes qui fonctionnent comme nous, c'est une bonne solution, alors que dans Je pense mieux, elle revient un petit peu sur cet effet-là et elle explique le bénéfice des relations, des conversations, des échanges sociaux avec des personnes qui ne seraient pas seulement profonds, philosophiques, métatranscendantales, etc. Dans le sens où ça peut faire du bien aussi à un zèbre que d'apprendre à tisser ce type de relations qui sont un peu moins profondes pour lui, mais qui permettent d'avoir finalement des relations sociales sécurisantes. Donc je trouve ça assez intéressant. Toujours son point fort dans ses bouquins, c'est quand même d'expliquer comment fonctionnent les normopensants. Par exemple, ici elle dit « Les normopensants évitent délibérément les sujets qui plombent ou qui fâchent, et d'ailleurs, ils se fâchent vite quand vous les abordez. » Du coup, c'est quand même sympa de donner des modes d'emploi. On peut se fréquenter sans se psychanalyser ni engager un débat profond à chaque discussion. Donc ça, c'est une information qui est relativement nouvelle pour un zèbre. Hein, le zèbre va avoir cette tendance naturelle à peut-être psychanalyser tous ses amis, à analyser tout ce qu'il voit, tout ce qui se passe autour de lui, à avoir envie d'avoir des gros débats philosophiques, métaphysiques avec les moindres personnes qu'il rencontre. Et en fait, c'est peut-être pas nécessairement bon pour sa vie sociale. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Votre seconde erreur est de faire toujours plus de ce que vous faites déjà trop. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance du zèbre à en faire beaucoup. Et du coup, quand on en fait trop, ça pénalise les autres et puis ça va nous exclure parce que on va nous voir comme un potentiel danger, notamment dans des organisations comme les entreprises. Voilà, en fait, ça fait quand même un petit rappel, lequel je conseillerais peut-être, je pense, mieux s'il fallait vraiment lire qu'un seul. Si c'est quelqu'un qui est en train de découvrir son fonctionnement, si tu es en train de te découvrir zèbre et que tu découvres ton fonctionnement neuro-atypique, je te conseille quand même de lire les deux dans le sens où une petite couche de rappel de temps en temps, ça fait pas de mal non plus. Et du coup, c'est quand même des livres faciles à lire et qui, en fonction des situations que tu vas vivre au quotidien, ça fait toujours du bien en fait de comprendre un peu. D'avoir un regard extérieur, une espèce de mode d'emploi quand on est dans notre petit brouillard de difficultés quotidiennes. Voilà. Moi, c'est pour ça, en première raison, que je vais conseiller ce livre. J'aime bien aussi parce qu'il parle de la place des zèbres dans le monde 2.0, de la place des zèbres dans l'organisation, de la mission de vie. Alors, elle évoque aussi la question de réminiscence de mémoire. Donc, il y a cette question du jumeau perdu qui revient. Ça a été évoqué rapidement dans le premier livre, mais elle en reparle dans tout un chapitre dans le deuxième, je pense mieux. L'histoire du jumeau perdu, c'est que beaucoup de zèbres ont le sentiment d'avoir perdu un jumeau et du coup, que ce soit conscient ou inconsciemment, en fait. Elle explique qu'en plus, statistiquement, il se trouve qu'il y aurait à peu près 15% de grossesses gémellaires et qu'il n'y aurait que 2% qui arriveraient à un accouchement de deux jumeaux. Donc, ça veut dire qu'on a environ 10% de grossesses gémellaires dans lesquelles il n'y a que un bébé qui arrive au bout. Du coup, ça fait beaucoup de jumeaux qui naissent tout seuls. Et il se trouve que ça fait un pourcentage assez proche de ce que elle parle comme étant les surefficients mentaux. C'est-à-dire que les pourcentages qu'elle utilise sont un peu supérieurs à ceux utilisés par Jeanne Siofacha. Bon, on va pas s'embrouiller avec les chiffres. Dans les grossesses gémellaires, du coup, l'impact que ça peut provoquer sur une naissance d'un jumeau seul, donc avec un jumeau perdu, c'est que, en fait, ce jumeau va chercher en permanence des relations gémellaires avec les personnes autour de lui. Du coup, il va chercher une grande intensité, une possibilité de communiquer par télépathie. En fait, c'est ce genre de choses étranges qu'on observe chez les jumeaux. Et là, ce jumeau, bah, il va chercher ça chez d'autres personnes. Et de l'extérieur, ça peut ressembler à une dépendance affective. Dans le sens où on va demander beaucoup, beaucoup d'attention aux personnes de l'entourage et ça peut ne pas être compris parce que si tu demandes à une personne qui n'est pas née comme étant un jumeau d'avoir une relation gémellaire, ben, du coup, ça peut devenir un petit peu envahissant. Donc ça, je trouvais ça intéressant et en fait, ce qu'elle explique, c'est que il est possible que la surefficience mentale vienne du fait que, ayant grandi dans un environnement ou étant arrivé sur Terre dans un environnement assez hostile, comme par exemple une grossesse dans laquelle on perd un des deux bébés, ben le bébé va devoir surdévelopper une espèce de vigilance pour pouvoir survivre en fait dans ce monde hostile dans lequel il est en train d'arriver. Et du coup, c'est ça qui provoquerait la surefficience mentale. C'est comme si tous ses sens étaient en éveil, quoi. Donc ça, c'est une hypothèse possible. Je crois qu'à un moment donné, elle parle aussi d'hypothèse de réminiscence de vie passée. Je crois qu'elle s'est pas trop étendue sur le sujet. Elle explique aussi que ben, la spiritualité, c'est un sujet hyper important pour les zèbres. Et qu'ils sont nombreux à chercher du répondant sur le sujet auprès des professionnels dans la psychologie. Et du coup, c'est vrai que bah, les psychologues, c'est pas trop leur sujet, la spiritualité, quoi. Donc, les psychologues ont beau être les spécialistes de la douance, du coup, ils savent pas trop quoi répondre au niveau de toutes les expériences extrasensorielles et paranormales que peuvent vivre les zèbres. Finalement, il y avait un autre sujet que je voulais aborder. C'était celui, ah oui, des différents niveaux d'évolution. Alors, elle parle à un moment de 6 niveaux de conscience. Et donc, elle expliquerait que les pervers narcissiques, par exemple, seraient au niveau 1, qui est un niveau assez lié à l'enfance dans lequel je fais des bêtises jusqu'à ce qu'on me punisse, quelque part. Et elle associerait les survivants mentaux au niveau de conscience 6. Alors, c'est un peu. C'est très résumé. Là, il faudrait retourner voir le chapitre. Mais je trouvais ça assez intéressant la façon dont elle le décrivait. C'est documenté, bien sûr, il y a toute une bibliographie qui va avec. Ça permet de comprendre en fait le décalage de maturité entre un surefficient et une personne un petit peu mesquine. Moi, je dis mesquin parce que j'ai encore du mal à appeler les pervers narcissiques des grands méchants, mais elle est vraiment pas délicate avec eux et elle les. Voilà, elle leur donne pour leur compte, quoi. Hein. parce qu'elle en a un petit peu marre, en fait, d'en croiser à travers toutes les consultations qu'elle fait professionnellement. Voilà, il y avait un autre chapitre aussi sur l'autisme, notamment Asperger. Très touchant comme chapitre. Très troublant aussi, du coup, de voir le nombre de zèbres qui se retrouvent dans certains passages de la description de alors ce trouble, bon, de cette atypicité neurologique, on peut dire. Parce que est-ce que c'est un handicap d'être autiste Asperger? C'est un handicap dans une société où tout le monde n'est pas comme ça. Mais bon, si tout le monde était autiste Asperger, peut-être que ce ne serait pas un handicap. Le danger de ce chapitre, c'est que tout le monde dise bah, tout le monde est un petit peu autiste. Du coup, bah, ça handicape encore plus les personnes qui sont concernées. Le gros avantage de ce chapitre, c'est de nous permettre de beaucoup mieux comprendre en fait ce qui se cache derrière, les tenants, les aboutissants, quelles sont les difficultés des autistes, quels sont leurs talents. Alors, elle parle notamment à un moment donné de l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle, je crois. L'empathie cognitive, c'est celle où on va réussir à comprendre mentalement les émotions de l'autre. Et ça, c'est là que l'autiste Asperger va avoir des difficultés. Alors que l'empathie émotive, c'est celle où on va ressentir les mêmes émotions que l'autre. Et c'est là que les personnes dont je ne me rappelle plus le nom ont des difficultés. Voilà, donc il existe plusieurs types d'empathie. En fait, ça permet aussi un petit peu de se positionner, parce que c'est vrai que derrière ce mot empathie, on met un peu de tout, comme derrière le mot sensibilité, on met un peu de tout. Donc ça permet de faire le tri. Voilà, donc bah, encore une fois, je te recommande vraiment ce livre, surtout si tu te reconnais derrière le mot hypersensible. Je pense que c'est un livre qui peut être vraiment intéressant et encore plus si tu as été ou tu es régulièrement victime de personnes manipulatrices. Du coup, l'auteur à te recommander absolument, c'est Christelle Petit-Collin, soit avec son premier livre, Je pense trop, soit avec son deuxième livre, Je pense mieux. Mais elle a écrit plein d'autres livres aussi sur la manipulation, que je n'ai pas encore lu. Mais si tu veux m'en conseiller un, hein, c'est avec plaisir. Je te retrouve demain pour découvrir ensemble un prochain livre. À très vite.